Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ok, l'émission s'appelle « Regarde ailleurs ». « Regarde ailleurs », c'est cette envie d'élargir son regard sur le monde à travers des parcours de vie, à travers des expériences des uns et des autres. Là, j'accueille aujourd'hui dans mon salon Justine. Donc, je ne sais pas encore grand-chose de toi, mais je sais que tu es sur Colmar depuis quelques temps, que tu cherches à développer tout ce qui est activité autour du yoga. Et je remarque souvent chez les voyageurs, hein, le yoga fait partie des choses que l'on rencontre sur les routes du monde. Je sais que tu as passé pas mal de temps en Australie, donc on parlera dans cette émission d'Australie, on parlera du yoga, cette notion de trouver sa voie, parce que c'est peut-être ça aussi l'idée aujourd'hui, c'est de remettre du sens et de la cohérence dans nos vies. Donc je vais prendre le temps de te rencontrer à travers ce micro. Donc Justine, on va revenir peut-être aux origines, ou en tout cas au moment où tu as senti que c'était le moment pour toi de quitter la France pour aller voir ce qui se passait au-delà de nos frontières.
Déjà, merci de m'accueillir. Ça fait très plaisir de prendre un moment pour apprendre à se connaître. Alors moi, à la base, donc j'ai étudié dans le marketing du luxe, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai fait mon bachelor sur Paris et c'est en faisant des stages que je me suis rendu compte que ça manquait d'humanité ou d'humanisme, je sais pas trop comment l'expliquer, dans ce que je faisais, que ça manquait de sens. Et à la base, j'avais prévu de faire un master, mais je me suis sentie vraiment bloquée et j'avais envie de liberté. Quand j'étais étudiante, je faisais pas mal de petits boulots sur le côté et j'avais toujours déjà cette mobilité, liberté de partir à droite à gauche, faire des week-ends, aller voir les copains, etc. Et je voulais pas m'engager dans quelque chose de très... qui me limite en tout cas. Donc j'ai décidé de partir. Pourquoi l'Australie? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai vu, à quel moment, pourquoi ça m'a donné cette idée-là. Je savais que j'avais envie de partir loin et au soleil. Voilà, c'était ça mes deux arguments sur le moment. Et du coup, j'ai décidé Sydney, mais vraiment sur un coup de tête. C'est-à-dire que 6 mois plus tard, je partais. Et donc voilà, je savais même pas où se trouvait Sydney sur la carte australienne, hein, pour être totalement transparente. Donc voilà, à ce moment-là, je crois que j'ai une vingtaine d'années, je crois que j'ai 21 ans, donc je mets tout, je me donne les moyens pour voilà économiser assez d'argent et faire mon premier voyage.
Mais tu finis tes études quand même dans le marketing de luxe ?
Alors je finis mon bachelor, ouais. Voilà. Donc j'ai mon bachelor en juin. Et en septembre, le 15 septembre 2015, je pars à Sydney, sans connaître personne sur place. Je crois que je me fais juste une amie dans l'avion à ce moment-là. Mais voilà, tout ce que j'ai réservé, c'est un backpacker pour un hostel pour, je crois, 5 nuits, quelque chose comme ça.
C'est une destination que beaucoup de Français prisent. Hein. Il y a peut-être la manière de parler l'anglais aussi pour
oui,
nous.
Voilà,
cette envie de devenir bilingue. L'Australie, on a des PVT, hein, des Working Holiday Visa, donc on peut partir et travailler là-bas. Donc quand tu dis tu pars à 21 ans en Australie, est-ce que tu avais déjà, avec ta famille, eu l'occasion de voyager? Ou c'est vraiment pour toi l'inconnu total de te lancer comme ça, hein, faire un saut dans le vide, à l'autre bout de la planète?
J'avais déjà fait des vacances avec mes parents, mais dans des pays européens. Et je crois qu'une fois, on est allé en Tunisie parce que j'ai des origines. Enfin, mon père a des origines. Il y a des personnes de la famille sur place, mais on n'est jamais allé plus loin que l'Europe. Donc voilà, dans des vacances courtes, quoi. Des vacances à une semaine, 2 semaines en Espagne, en Italie. Mais voilà, quand j'étais très, très jeune, donc je ne me rappelle même pas forcément à ce moment-là. Donc pour moi, c'est quand même un saut dans le vide, quoi.
Donc tu pars en Australie avec ton Working Holiday Visa.
Ouais.
Donc là, c'est des visas qui sont valables 1 an. Est-ce que tu savais que tu allais y rester 7 ans?
Non, mon but, c'était de partir 7 mois. Donc en fait, je savais pas trop exactement combien de temps j'allais rester. Mais comme j'avais découvert un job en Suisse, notamment dans le fundraising, je savais que j'avais un objectif quelconque de quand même revenir sur Lausanne en Suisse et peut-être retrouver un travail dans cette branche-là. voire même, je pensais pas complètement avoir mis de côté le marketing du luxe. Sur le moment, ça me plaisait plus, mais je me disais peut-être que je pourrais retourner en Suisse, trouver du boulot avec ce diplôme-là, puisque j'ai étudié pour ça. Donc voilà. Mais j'avais pas du tout cette idée de vouloir rester. D'ailleurs, même quand je suis arrivée sur Sydney et qu'il y a des gens qui me parlaient de faire 3 mois de ferme, j'étais complètement fermée à l'idée de partir 3 mois n'importe où en Australie avec cette mission de travailler dans des fermes. Et je savais pas, même pas, quand on parle de ferme en France, on s'imagine des fermes agricoles. C'est pas forcément des fermes agricoles tout le temps, mais voilà. En tout cas, je savais pas. Donc c'était 7 mois un peu l'idée, et en fait c'est devenu 7 ans quoi.
Alors Sydney, tu arrives à Sydney, parle-nous peut-être de cette arrivée dans ce pays nouveau. Qu'est-ce qui te reste du début? Parce que c'est pas simple, je crois que le plus compliqué quand on s'expatrie, c'est les premiers jours les plus compliqués, non? Ouais.
Moi j'avais eu la chance de m'inscrire sur un groupe Facebook à l'époque, les Français à Sydney, ou peut-être ceux qui étaient revenus de Sydney, et j'avais rencontré quelqu'un justement sur Paris qui m'avait un peu aiguillée sur quel hostel trouver, si j'avais besoin d'un boulot. Elle m'avait donné le nom de son ancien patron, etc. Pour travailler et faire un job alimentaire sur Sydney. Donc j'avais quand même quelques petites clés en main. J'étais venue pas trop préparée, mais un petit peu quand même. Et donc ce dont je me rappelle déjà, c'est... je sais pas pourquoi, mais je me vois dans ce minibus qui m'amène dans la city, et je vois les palmiers et le soleil. Donc déjà ça me comblait déjà. Et après il y a la découverte de Sydney, du centre vraiment de Sydney. Donc et là je vois les buildings et tout, et dans ma tête je comparais ça vraiment à New York quoi. J'avais jamais vu autant de monde dans les rues. Enfin peut-être un peu à Paris, mais c'est pas pareil. Les buildings, ils sont vraiment différents. L'esthétique, l'architecture, c'est pas du tout la même, et on se rend compte vraiment que c'est très moderne quand même. Et donc voilà, donc je suis arrivée dans la city comme ça, et au bout de, je crois, 2 jours, j'avais décroché un job, parce que du coup j'avais appelé ce contact de mon ami qui voulait me faire commencer, je crois, 3-4 jours après ou après le week-end. Et entre temps j'avais aussi trouvé une coloc. Alors ça c'est un truc de folie, mais c'était une coloc, donc c'était un penthouse dans la city. On était 12 dedans. C'est-à-dire qu'il y avait des bunk beds, donc des lits, je sais pas, où il y avait peut-être 5 personnes par chambre. Donc on était dans un appart qui est censé être peut-être pour 2 ou 3 personnes, qui était magnifique, mais on était 12. Et je me suis retrouvée dans une chambre avec 4 Françaises de Paris. Et je me rappelle, ça m'a foutu un peu les boules, parce que je me suis dit, je suis quand même venue jusqu'à l'autre bout du monde, et je me retrouve avec des Parisiennes, quoi. Donc c'était un peu l'ironie, mais c'est ça, en tout cas mes premiers souvenirs, c'est ça, vraiment de ciné.
Tu dis Sydney, très différent de Paris, c'est vrai qu'on beaucoup plus moderne, hein, parce ouais, que ouais. Paris, la France, le côté culturel est là depuis très longtemps. L'Australie, c'est un pays qui est neuf, qui est jeune, ouais, qui ça. A été découvert en quoi, en 1700 ou non, peut-être pas, ou en 1500.
De 300 ans, il me semble, hein, quelque chose comme, enfin que ça s'est bien établi en tout cas l'Australie quoi. Mais c'est pas si vieux que ça du coup.
Donc toi, tu arrives à Sydney, donc tu trouves assez facilement du boulot, finalement, grâce au contact que tu avais avant de partir. C'était quoi le but? C'était vraiment de travailler? Alors, t'as pas cette envie de prendre un camion et de faire le tour de l'île, comme ce qui se fait beaucoup en backpacking, hein. L'Australie, c'est beaucoup de road trip, où souvent les gens découvrent la van life. Donc toi, c'était pas ça?
Non, moi, c'était pas ça du tout. Moi, en fait, j'avais besoin d'indépendance. Donc j'avais besoin de me prouver que je pouvais me débrouiller, établir une vie et une stabilité de moi-même, toute seule. Donc à l'époque, quand je pars de France, mes parents sont séparés et je touche une pension de mes parents. Moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai eu un coup de fil pour me dire que j'avais eu un job, j'ai dit à mes parents, vous me coupez les vivres, je veux plus avoir un centime de votre part. Et vraiment, moi, l'idée, c'était, je veux créer ma vie à Sydney. Et c'est vrai que c'était très différent de ce que les gens cherchent en général. Quand ils vont en Australie, ils passent peut-être quelques temps dans une ville pour travailler et se remplir les poches pour après voyager. Moi, je me suis dit, je me laisse la porte ouverte au voyage, mais c'est pas mon but de partir dans un van et de faire le tour de l'Australie. Moi, j'ai envie de créer une vie, une stabilité sur Sydney même. Et donc, je suis partie avec des économies, mais je voulais pas les toucher forcément tout de suite. Donc voilà, moi, pour moi, je voulais travailler, après trouver mon appartement ou vivre dans une coloc. Et c'est ce que j'ai fait au final. Ouais.
Tu commences dans une coloc, mais ouais. Les 7 mois se transforment en 7 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parle-nous un petit peu de cet itinéraire.
Il s'est passé beaucoup de choses. Donc, du coup, donc les deux premiers mois, je dirais que je fréquente beaucoup de backpackers comme moi. Donc, des gens que je connais de ma coloc, qui connaissent d'autres personnes, etc. Donc, de nationalités différentes, européens, d'Amérique du Sud, etc. Et mon anglais, il est OK. Mais c'est pas encore trop ça, parce que je me rends compte qu'au travail, donc mon travail, juste pour le contexte, je travaille dans une usine où je fais du picking et du packing, donc en fait je prépare des colis, c'est un peu le télématin du ciné, donc voilà, les gens font des commandes un peu de produits un peu des chinoiseries, je dirais, et du coup voilà, en fait dès que je commence à parler avec des Australiens, je ne comprends rien à leur accent, je sais répondre oui ou non et c'est tout. Et en fait il se trouve que je rencontre quelqu'un. Donc je rencontre mon ex copain à l'époque, donc Brenton, avec qui je vais m'entendre très vite, très bien, même si la communication au début elle est pas ouf, on va dire. Et je sais pas pourquoi, très rapidement, bah on tombe amoureux et il me propose d'emménager dans sa coloc. Donc lui il est de Sydney. Il vit avec je crois trois autres amis australiens aussi. Donc ça se fait beaucoup aussi, hein, la coloc sur ciné entre locaux. Et en fait, j'emménage avec eux et c'est là que je commence un peu à me projeter. Je me dis, je vais pas commencer une relation amoureuse alors qu'il me reste 5 mois sur ma deadline à moi. Si je le fais vraiment à fond. Donc c'est un peu comme le voyage. C'est vraiment, si je me mets avec cette personne, c'est pour construire quelque chose et c'est pas juste pour profiter, prendre ce que j'ai attiré et repartir. Donc c'est là que je me suis dit, OK, bon, bah, on va passer à l'étape des fermes puisqu'il faut que je renouvelle mon visa d'un an. Et donc du coup, cette relation m'a poussée à faire mes fermes et à rester, etc., etc. Et ça m'a emmenée vers d'autres choses aussi après.
Redis-moi, ça veut dire quoi ça ?
Les fermes, en fait, c'est que donc pour renouveler ton Working Holiday Visa en Australie, donc à l'époque, tu avais un an d'office. Et pour renouveler, il fallait faire 3 mois ou 88 jours dans la même ferme. Donc de travail, en fait, c'est là où il manque de main d'œuvre. Et donc, c'est une manière pour eux d'avoir plus de main d'œuvre, plus de personnes pour aider les personnes qui travaillent dans les fermes, enfin les personnes qui ont des fermes agricoles ou autres, à avoir de la main d'œuvre, des personnes qui soient là pour justement remplir les trous. Et si tu fais tes 88 jours pardon ou tes 3 mois de ferme, tu as un an en plus. Maintenant, je crois que d'ailleurs à ce jour, maintenant tu peux faire 6 mois de ferme et tu as 2 ans en plus.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
C'est marrant parce que l'Australie, c'est une sorte de voyage initiatique pour beaucoup de jeunes Français qui partent là-bas, parce qu'on peut vivre plein d'expériences très différentes l'une de l'autre. Tu parles de Sydney et là tu parles de travailler dans une ferme au milieu de nulle part. Donc il y a le, c'est pas du woofing, c'est encore autre chose.
C'est encore autre chose. Le woofing, c'est tu travailles chez des gens ou dans une ferme et en échange ils t'offrent l'hébergement.
Mais là, il n'y a pas de question de visa quand tu fais du woofing.
Il me semble peut-être que dans le passé, il y a peut-être une quinzaine d'années, ça marchait. Mais je ne suis même pas sûre. Mais non, là, il fallait vraiment avoir un papier validé par le fermier, enfin la personne, le boss, quoi, qui te signait tes jours à la fin, quoi. C'était vraiment, tu viens travailler, on te signe chaque jour où tu es présent. Ouais.
Qu'est-ce qui te reste de cette expérience seule, isolée, dans une ferme à aubergines ?
C'était très chaud, hein. Je me rappelle psychologiquement là, ça a commencé à tourner dans ma tête parce qu'en fait, là on est vraiment face à soi-même et je pense que j'étais pas prête à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup de temps libre et comme je disais, on est au milieu de nulle part, il y a pas grand-chose à faire et il n'y a pas d'activité, donc on est tous un petit peu isolés dans notre coin, même si voilà, le soir on dîne ensemble et tout ça. Je me rappelle vraiment commencer à expérimenter le overthinking, tu vois. Genre vraiment à réfléchir à tout, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais. Je questionne mes relations, je questionne un petit peu ma présence sur cette terre, pourquoi je suis là et c'est quoi le sens de tout ça. Et vraiment les questions auxquelles tu as pas le temps de... t'as pas le temps de te les poser dans un quotidien où t'es alimenté par le travail, des responsabilités, etc. Là, je me rappelle, j'ai toujours cette image en tête de me demander, mais pourquoi une fleur est une fleur, tu vois? C'est un peu cette image de tout questionner sans cesse, et je me rappelle que vraiment psychologiquement, à un moment donné, c'était lourd.
Mais tu choisis quand même d'aller au bout pour avoir ce visa, pour retrouver ton amour. C'était ça l'idée? C'était de se remettre en couple ou bien vraiment cette envie de rester en Australie? Enfin, quel était finalement le leitmotiv? Qu'est-ce qui faisait que tu persévères dans quelque chose de pas forcément confortable?
Ouais, bah c'était la relation. Bah déjà, parce que quand je commence quelque chose, je le termine toujours. Enfin, de manière générale, hein, c'est vraiment mon mantra pour ça. Et puis parce que je voulais retrouver mon amoureux, justement, et parce que je voulais avoir ce visa et rester un an de plus. Il était hors de question que je termine et que je me laisse dépasser par ça. Et voilà, fallait que j'aille au bout de ce que j'avais prévu pour rentrer sur Ciné et établir la vie que j'avais envie de construire. C'était ça l'idée du début. Donc, même si c'était pour plus de 7 mois, bah, l'idée c'était, bah, je continue à vivre ma vie sur Ciné et il me fallait ce pass-là.
Mais du coup, tu l'as renouvelé 7 fois de suite, c'est ça? T'as bossé 7 fois dans les fermes?
Non. Ça a été compliqué. Alors, après ça, j'ai fait un student visa. Donc, j'ai renouvelé pour 2 ans. Donc, j'ai fait un student visa sur 2 ans. Et c'est un peu la magouille en Australie. Moi, je voulais vraiment étudier quelque chose de nouveau à la base. Je me suis dit, bah, tant qu'à dépenser de l'argent, parce que tu payes, hein, tu payes une école, etc., autant le faire bien pour en ressortir quelque chose, pour apprendre quelque chose. Sauf qu'en fait, toutes les formations qu'on me proposait, qui ne soient pas de l'université de Ciné, je précise, elles allaient rien m'apporter vu que j'avais déjà un niveau bac plus 3 en France, un bachelor, et c'était que des petits certificats et des diplômes. Et l'université a signé pour les étrangers. Déjà, c'est très cher pour les locaux, mais pour les étrangers, c'est encore plus. Hein, on parle de centaines de milliers de dollars, d'euros. Donc, finalement, je trouve une agence qui m'aide à trouver une petite magouille d'une école où je n'ai absolument pas besoin d'aller. Et en fait, où je dois aller une fois pour me rendre, faire toutes les signatures sur les 2 ans. Et du coup, je signe un student visa qui, quand même, a des restrictions. Hein, tu peux bosser que 20 heures par semaine. Donc, pour vivre à Ciné avec 20 heures par semaine de boulot, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du cash in hand. Tu bosses encore plus, mais voilà, tu fais du cash. Du black, pardon. Voilà, c'est ça qu'on dit. Et voilà, quoi. Et du coup, bah, ça m'a rajouté 2 années de plus. Et après, ce qui s'est passé, c'est que, bah, entre-temps, il se trouve que moi, je me suis séparée de cet amoureux-là. Et j'en ai rencontré un autre. Et je me suis paxée avec cet autre amoureux. Voilà. Et donc là, ça a été un peu plus compliqué au niveau des visas. Là, c'est beaucoup plus de choses à prouver. Tu dois prouver ta relation, tu dois prouver ta motivation à rester ici. Qu'est-ce qui te motive? En gros, voilà, ils veulent savoir que tu fais pas un mariage blanc, hein, parce que c'est un peu ça. Et voilà, et ça coûte beaucoup d'argent. Et c'est de plus en plus cher, d'ailleurs, chaque année. Et c'est ce qui m'a fait rester au moins 5 ans d'affilée à Ciné. Voilà, jusqu'au Covid.
Alors l'Australie, j'ai l'impression que vous êtes nombreux, les Français, à habiter là-bas. Il y a eu, je crois que le Working Holiday Visa est arrivé en 2003 ou 2004, quelque chose comme ça. Il y a eu des campagnes de communication qui ont été faites pour encourager la jeunesse française à partir en Australie. Je crois que la jeunesse française a répondu présente et vous y êtes allé par milliers de Français là-bas. Et j'ai l'image de... Ouais, c'est souvent le premier voyage des jeunes étudiants en fin d'études, justement.
Ouais, mais c'est assez étrange parce que moi, vraiment, à l'époque, je connaissais personne qui était parti en Australie. Et c'est pour ça que je dis, je ne sais pas ce que j'ai dû voir ou ce que j'ai dû entendre. Enfin, l'information a dû me venir à un moment ou à un autre. Je me rappelle juste d'une personne... quand j'avais peut-être 16, 17 ans, qui me parlait d'aller en Australie et qui m'avait parlé de ce PVT, mais c'était des années avant que moi j'ai l'idée d'y aller, et j'avais pas cette impression de mode en tout cas. Peut-être qu'elle était sûrement déjà là, hein, puisqu'il y avait plein de gens qui partaient déjà, mais moi en tout cas dans mon entourage, j'avais personne qui m'avait parlé d'amis ou d'amis qui vivaient ou qui étaient allés voyager en Australie, et vraiment moi c'était vraiment le côté... Je pense vraiment le côté distance. Je voulais partir loin. Je voulais pas me retrouver dans une ville, par exemple, les États-Unis, c'est peut-être, ça m'a traversé l'esprit, mais je me suis dit, je veux pas me retrouver à New York, par exemple, pour me retrouver dans une ville typiquement similaire à Paris. Je veux vraiment aller au soleil, sous les tropiques, et je veux voir des kangourous et des koalas. Je veux un truc vraiment exotique. J'avais jamais vécu au soleil, à la mer. Vraiment, c'est pour ça que j'avais choisi Sydney et pas Melbourne, d'ailleurs. Donc voilà, c'est ça que je peux dire pour ma motivation, comment elle est venue. Je sais pas, c'est un matin, je me suis réveillée, c'est venu comme ça.
Comment les Français sont perçus là-bas en Australie aujourd'hui?
Ça dépend, parce que je rencontre des Australiens qui me disent qu'ils aiment beaucoup les Français. En France, peut-être. Attention, je crois que les Australiens qui m'ont dit ça, c'est des Australiens que j'ai croisés en France. Mais les Australiens... les Australiens que j'ai côtoyés à Sydney, ils ont pas forcément une très bonne image des Français. Soit parce que y a beaucoup de backpackers qui volent, donc qui sont un peu, y a un peu ce côté, voilà, on est feignant, on n'a pas envie de payer, on vole. Soit parce que on a un côté caractériel que eux n'ont pas. Donc on est très, faut savoir que nous, on dit ce qu'on pense, les Français, les Australiens, non, ils se c'est pas qu'ils se le permettent pas, c'est que c'est pas du tout dans leur culture de se confronter à s'opposer à quelqu'un. Même dire non pour eux, c'est pas très simple, hein. C'est peut-être, on verra, j'y réfléchirai, mais le non vient jamais. Et nous, à côté, on passe vraiment pour des brutes, hein, faut le dire un peu. Donc on n'est pas toujours bien perçus.
Ouais, cette notion de vol, je crois qu'il y a même une expression, non? Faire du French shopping, c'est pas ça? C'est voler dans le supermarché?
Mais oui, exactement. Et moi, j'ai jamais fait ça. Et d'ailleurs, j'ai jamais aimé. J'ai vu des backpackers faire ça, des amis à moi, et j'ai jamais compris ça. En fait, eux, ils avaient déjà les caisses automatiques comme nous on a, mais eux, ça fait longtemps qu'ils les ont. Et parce qu'il y a vraiment cet esprit de confiance, en fait. Si tu perds quelque chose, je me rappelle vraiment d'être dans un bar les premières semaines où j'étais à Sydney, une copine qui perd son portefeuille dans un bar. Et des autres personnes qui nous disent « Mais vous inquiétez pas, on va aller au bar, c'est sûr quelqu'un l'a ramené. » J'étais là « Mais n'importe quoi, c'est foutu. » Bah si, on avait ramené son portefeuille. Il y a vraiment ce côté, vraiment, de communauté, vraiment, où les gens se soutiennent quand même. Alors après, c'est pas les bisounours non plus. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là, mais voilà, les gens se soutiennent, ils vont s'aider. Si t'es perdu dans la rue, tu vas t'arrêter pour aider quelqu'un. Les gens prennent le temps pour toi, et les gens ne se volent pas, quoi. Donc, que ce soit un supermarché, une grande chaîne, ou t'as trouvé le portefeuille ou l'ordi de quelqu'un, il y a des groupes, les groupes de chaque quartier de la ville de Sydney. Les gens, ils se disent, vous avez un tel a perdu sa carte bancaire, un tel a perdu ses écouteurs. Il y a vraiment ce côté d'entraide, en fait, que je trouve qu'on n'a pas forcément, nous, en France. Voilà.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Pendant ces 7 années en Australie, t'as quand même pris le temps de découvrir un petit peu le pays et d'y voyager, ou tu n'as pas pris ce temps-là?
Alors, pas comme j'aurais aimé. En fait, je pense que j'aurais aimé le faire, mais j'y ai réfléchi trop tard, parce qu'en fait, j'ai été tellement pris dans le cours de la vie de Sydney, de réfléchir à comment j'allais payer mes visas, mon prochain visa, que j'ai passé mon temps à travailler, à essayer de mettre de l'argent de côté et de temps en temps faire un voyage ou revenir en France, chose qui me coûtait très cher. Donc, j'ai jamais eu ce temps de faire un vrai voyage en Australie. Donc, je suis partie, hein, je suis allée à Byron Bay, plusieurs fois en vacances, où je suis partie une semaine. Je suis partie à Melbourne plusieurs fois aussi. Je suis partie dans le Queensland. J'ai fait du snorkeling à Grande Barrière de Corail. J'ai fait l'Est un petit peu, mais j'ai pas fait la côte Ouest. Et du coup, maintenant, j'ai un très bon ami, mon meilleur ami qui vit à Perth, maintenant depuis 2 ans. Et voilà, je sais que le prochain gros voyage que je fais, même si j'ai déjà fait l'Australie, je me dis, il faut que j'y retourne parce que je veux absolument faire la côte Ouest et la Tasmanie. Et ça, j'ai jamais pris le temps de le faire parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans ce cercle vicieux, un peu comme on retrouve en France quand tu travailles, quoi, dans tes responsabilités, sauf que moi, j'avais vraiment cette deadline de visa, d'argent, et il fallait que c'était une course contre la montre, et du coup, je pouvais pas me laisser aller, entre guillemets, et lâcher prise pour faire un vrai voyage en Australie, comme la plupart des gens le font quand ils y vont, quoi.
Si tu devais résumer l'Australie en quelques mots, voilà, qu'est-ce que c'est que l'Australie?
Intense. Intense. Le mot intense, mais ça, c'est mon expérience. Hein. C'est plus mon expérience, je dirais, intense. Après, comment je pourrais formuler ça ? Non, ce qui est vraiment différent, et c'est ce à quoi je pensais, c'est vraiment la mentalité, la culture australienne, donc culture aussi anglo-saxonne. Hein. Les gens sont très relax. Et quand je dis très relax, c'est pas juste l'image du surfeur qui va faire son surf tous les matins. C'est vraiment... ils sont un peu plus dans l'écoute, je trouve, que nous en France. Donc ils sont plus attentifs aux autres de manière générale, que ce soit dans la vie quotidienne, au travail, avec tes amis. Et il y a moins de rigueur, il y a moins de rigidité. Donc par exemple au travail, ce qu'on attend de toi, c'est pas de faire plus d'heures. On n'attend pas que tu sois parfait dans ton boulot, que tu arrives à la minute près. Et ça peut être aussi un petit peu le défaut, parce que du coup tu te retrouves avec des gens vachement relax et assez laid back. Et au début tu te dis punaise, c'est super chouette. Et par moments tu te dis mais attends, là c'est pas assez cadré. Ça va pas, tu vois, dans certains projets où les gens, par exemple. Tu t'engages à quelque chose et les gens ils lâchent prise assez facilement, ils vont annuler, que ce soit au professionnel, au niveau des amis, tu vois, mais il y a un peu, voilà, c'est une ouverture d'esprit aussi qui est quand même assez importante, je trouve, comparée à la France, pardon. Enfin, vraiment l'ouverture d'esprit, voilà, il y a énormément de cultures différentes aussi en Australie, différentes types de nationalités. Et même s'il y a quand même un certain racisme, il faut pas oublier aussi l'histoire de l'Australie et comment l'Australie est née, entre guillemets. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'acceptance, d'acceptation, on dit, c'est ça en français, acceptation de l'autre, en fait. Peu importe la couleur de peau, d'où tu viens. Alors certes, il y a des préjugés, mais je trouve que c'est beaucoup plus accepter l'autre comme il est. Que, comme on le fait nous en France.
C'est marrant parce que c'est pas tellement l'image que j'ai, notamment quand on parle des aborigènes. J'ai l'impression qu'ils sont peu acceptés.
Mais c'est ça aussi, et c'est là aussi où je trouve la contradiction en fait avec l'histoire de l'Australie. C'est pour ça que je disais, moi j'ai l'impression qu'il y a peu de racisme en fait au quotidien, mais quand on connaît l'histoire et on connaît après tous les droits des aborigènes, et encore ils ont encore l'année dernière, ou je sais plus maintenant, oui ça doit faire un an et demi, deux ans peut-être, qu'ils ont essayé de faire voter une loi pour que les aborigènes soient représentés au Parlement, et ça a été refusé. Je crois qu'il y a un État qui a été majoritaire là-dessus. C'est là en fait où elle est toute la contradiction. Après, je trouve que la petite différence aussi avec la France, c'est que nous, on est très instruits sur l'histoire de la France, sur l'histoire des pays d'Europe et du monde un peu plus en général à l'école depuis très jeune. Je trouve que les Australiens, ils sont pas ignorants, mais en fait, on leur inculque pas ces valeurs-là, on leur apprend pas l'histoire de l'Australie, mais en même temps, quand tu sais comment ça a été fait, je pense que c'est normal que... Enfin, je peux comprendre pourquoi à l'école, on leur dit pas, bah voilà comment on est venu choper les terres et comment on a mis les aborigènes à mal, quoi. Mais c'est vrai que non, les aborigènes ne sont pas du tout acceptés comparés quand je parle aux autres. Quand je parlais des autres cultures, je parle notamment des pays d'Asie. Tu vois, il y a énormément de personnes du Népal, d'Inde, du Liban, de plein de continents différents en fait, qui sont vachement acceptés. Et en fait, c'est les aborigènes qui sont majoritairement rejetés. Et d'ailleurs, ceux que tu vois souvent dans le mal dans la ville, c'est les aborigènes, parce qu'en fait, c'est pas du tout leur mode de vie. Nous, on a pris leur terre le mode de vie moderne de la ville, c'est pas du tout leur mode de vie, et ils s'y retrouvent pas du tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont vachement isolés dans des terres beaucoup plus naturelles.
Pour revenir sur l'histoire de l'Australie, donc c'est James Cook, hein, qui a découvert ce continent et qui, sous le nom du concept Terra Nullis, s'est approprié tout bonnement l'Australie, en disant que les aborigènes n'avaient aucun papier qui prouvait qu'ils étaient chez eux, donc ça appartient à la couronne d'Angleterre. Et s'en est suivi une sorte d'ethnocide, de génocide, de génération volée, où on a tout fait pour les faire taire et les acculturer, hein, au nom de Dieu, de la religion. Enfin, c'est assez moche finalement quand on regarde dans l'histoire ce qui s'est réellement passé là-bas, alors que c'est un peuple qui vivait de manière autonome depuis plus de 30 ou 40 000 ans. Hein. L'Australie, c'est une île éloignée de tout continent, et donc cette population aborigène avait développé des codes culturels, des codes sociaux propres Alors évolution hein, à eux-mêmes, et plutôt que de se dire tiens les gars soyons complémentaires, qu'est-ce que vous avez découvert pendant 40 000 ans d'évolution, on est venu, on les a traités comme des singes ou des sauvages, ou même pas comme des humains parce qu'on n'a pas du tout reconnu leurs droits. Et c'est vrai que ça a fait et nous on a imposé notre culture qui était absolument pas compatible avec la leur, qui était sur une autre cosmologie, notre spiritualité, notre forme de code culturel et sociaux. Et c'est vrai que aujourd'hui c'est assez dur de voir ce qu'est devenu ce peuple aborigène, hein, donc les premières nations de ce pays et de ce continent.
Ouais, et puis nous on est vachement dans la consommation et la surconsommation, et eux ne le sont absolument pas, et c'est là où tout nous sépare avec eux. Et j'ai pas énormément d'autres choses à dire parce que je pense que je m'y connais pas assez sur le sujet pour plus développer, mais c'est vrai que il y a beaucoup de contradictions et d'incohérences en Australie vis-à-vis de ce racisme-là, qui est là subtilement. Il est beaucoup moins, je trouve, frontal comme on le voit en France. Il est beaucoup moins voyant. Je trouve que c'est dans beaucoup de subtilité, en plus de cette histoire avec les aborigènes et de ce combat-là. Mais bon, c'est ça qui fait c'est ça qui est très étrange avec l'Australie, du coup, parce que ça fait... ils ont beaucoup de points positifs qui font un peu la beauté du pays, et ils ont des points négatifs quand même un petit peu cachés, je trouve, que tu vois pas tout de suite. Tu le sais seulement si tu t'intéresses vraiment à l'histoire du pays et à ce qui se passe, parce que bon voilà, après on va pas parler d'écologie, mais si on rentre dans le sujet, ils sont pas très écolos non plus, même si on a l'impression qu'ils le sont, etc. Et il se passe plein de choses au niveau les coraux, etc. Comme tout est détruit à cause de justement de cette surconsommation et de tous les bateaux et de la recherche de je ne sais plus quoi, si c'est le pétrole ou autre chose, je ne m'y connais pas assez pour en parler. Mais voilà, il y a plein de choses qui en surface semblent être fantastiques, et en fait en subtilité ça l'est pas autant. Et d'ailleurs, si je peux rajouter une chose vis-à-vis des Australiens et de l'Australie, et ça c'est la chose qui m'a fait partir au final, c'est que les Australiens sont des personnes très douces et très, disponibles, accessibles, très, très sweet, hein, comme on dit, mais finalement toujours, j'aime pas faire de généralité, mais beaucoup en surface. En tout cas, à Sydney, c'est ce que moi j'ai expérimenté. Après, je sais que la culture, elle peut un peu évoluer selon les régions, et c'est souvent beaucoup en surface, et finalement il n'y a pas beaucoup de relations. C'est difficile d'avoir des vraies connexions profondes et des vraies vraies amitiés. Moi, en 7 ans là-bas, les vrais amis que j'ai eus, c'est mes deux ex et des expats, mais je me suis pas fait de vrais amis australiens, femmes comme hommes, hein. C'est très difficile de faire de vraies connexions et de parler de choses profondes, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la santé mentale, c'est quelque chose d'assez terrible là-bas, mais le suicide c'est un sujet très important en Australie, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, le taux de suicide en Australie est énorme, et notamment chez les hommes, parce qu'il y a vraiment ce côté encore caricatural de l'homme qui garde tout pour lui, qui doit être fort, même si voilà, il est doux, etc. Un homme, ça a pas mal, et voilà, c'est vieux schéma. Donc en fait, c'est un peu old school finalement. L'Australie, c'est jeune, mais c'est un pays qui a besoin encore d'évoluer énormément.
Justine, merci beaucoup, merci à toi.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.